Mais on s'en va tout de suite voir notre très cher Yvan Deslauriers. Salut Yvan.
Bonjour Denis Martin.
Donc on va parler des sourlympiques.
Des sourlympiques, oui. C'est un terme que j'avais jamais entendu, que j'avais jamais lu. Puis pourtant, vous allez voir dans l'article, ça existe depuis fort longtemps. Alors on va parler d'une golfeuse québécoise qui s'en va aux sourlympiques. Ça va être au mois de novembre prochain. C'est un article qui a été créé par Kevin Breton. C'est sur le site de ICI Radio-Canada depuis hier. Donc, on demande à Sacha Laoun, qui est la golfeuse en question, un tournoi de golf pour les personnes sourdes, est-ce bien différent de ceux qu'on a l'habitude de voir? Et elle répond, pas vraiment. La seule différence, c'est que si on crie « four » pour avertir une joueuse, ça ne fonctionnera pas.
Ah, oui, en effet. En effet.
Alors, la Québécoise a vécu les deux. Elle a participé à différents championnats canadiens et provinciaux et a aussi représenté les Carabins sur la scène universitaire. Petite parenthèse, j'ai fait une mini-recherche sur Sacha Laoun. Elle a aussi étudié au Collège André-Grasset, donc... On partage cette chose en commun. En parallèle, elle a participé à plusieurs compétitions réservées aux personnes sourdes ou malentendantes. Elle a notamment terminé sixième à Maynooth en Irlande en 2018 au championnat du monde de golf des personnes sourdes. Elle dit « J'ai commencé le golf quand j'avais 16-17 ans sous les encouragements de mon frère. » indique celle qui est désormais âgée de 27 ans. Je faisais de la natation. Le golf, ça ne m'intéressait pas du tout au départ. Elle a finalement pris goût, même qu'elle a été couronnée championne de la saison universitaire en 2022. Mais si elle a continué dans le sport par la suite, c'est en grande partie en raison des occasions uniques qui se sont présentées à elle. Elle nous dit « J'aurais peut-être arrêté le sport si ce n'était pas des compétitions pour sourds. On m'a approché, on m'a fait découvrir l'Association des sports des sourds du Canada que je ne connaissais pas du tout. Mon premier tournoi, ça a été un coup de cœur rapidement. » Elle ajoute « Je suis arrivée dans ce milieu-là et c'est comme si tout le monde me connaissait, même si je ne parlais pas la langue des signes. » Ça a été une connexion immédiate. C'est étrange de comprendre qu'elle ne parle pas la langue des signes. On va en parler un petit peu plus loin dans l'article. Donc, il y a différents types de façons de communiquer quand on est une personne sourde. Sacha Laoun retrouvera quelques-unes de ses adversaires cette semaine au championnat canadien des sourds à Château-Bromont du 28 au 30 juillet. Certains compétiteurs s'expriment en langue signée, tandis que d'autres, comme elle, sont oralistes et utilisent un implant cochléaire. Les sourds et malentendants ont leur propre réseau sportif avec des championnats au niveau provincial, national et international. Ça explique pourquoi ils ne sont pas présents aux Jeux paralympiques aux côtés d'autres personnes handicapées. Ils organisent plutôt leur propre événement, les Deaflympics ou les Sourlympics, qui se tiennent périodiquement aux 4 ans. Un grand rassemblement qui vise à donner l'occasion à des sportifs de s'illustrer, mais aussi à célébrer la culture sourde. Si les Jeux paralympiques se tiennent généralement dans l'ombre des Jeux olympiques, c'est encore plus le cas pour les Sourlympics. Les paralympiques, on se souvient de l'année dernière, se déroule dans la même ville que les Olympiques quelques semaines plus tard. Ce n'est pas le cas pour les Sourlympiques qui se déploient vraiment comme un événement indépendant. En raison de cela, le rayonnement médiatique est moindre et les possibilités de financement sont plus rares, explique Alain Turpin, qui est directeur général de l'Association des sports des sourds du Canada. Il nous dit « Plusieurs personnes ne le savent pas, mais les Sourlympiques existent depuis plus de 100 ans. C'est encore plus vieux que les Paralympiques. La première édition des Sourlympiques a eu lieu à Paris en 1924. Il n'y a pas de préjugés défavorables envers les Paralympiques. C'est un très bel événement, mais c'est multi-handicap. Ce n'est pas pensé forcément en fonction des sourds et de leur communication. Sacha Laoun voit aussi la pertinence d'avoir un événement unique d'une grande richesse culturelle. Elle dit, même si tu ne parles pas leur langue, les sourds signeurs font tout pour te faire sentir inclus. On trouve des moyens de communiquer avec le téléphone, par exemple. Elle dit, c'est drôle de voir comment les signes ne sont pas les mêmes au Québec ou aux États-Unis pour le même mot en fonction des langues. Ça donne lieu à des échanges cocasses. Ces expériences l'ont même incité à s'inscrire à un cours de langue signée québécoise. Elle dit, c'est difficile de maintenir un bon niveau quand on ne pratique pas souvent. Mais j'aimerais m'y remettre. Je sais au moins le lexique du golf, le drapeau, les balles, le trou, etc. Alain Turpin, lui, il s'en réjouit. Il dit, Sacha ne connaissait pas le langage des signes. Ça lui a permis d'en apprendre plus sur le monde des sourds, de rencontrer des golfeurs à travers la planète qui ont la même réalité qu'elle. Il aimerait offrir un maximum de sourds canadiens. La même occasion au prochain grand rendez-vous des Sourlympiques à Tokyo en novembre. Pour l'instant, il y a une délégation de 48 athlètes dans 9 sports qui est qualifiée. Mais le coût du voyage est un défi majeur, indique toujours le directeur de l'association. On reçoit un financement du fédéral, mais le montant n'a pas été indexé en 10 ans. On parle présentement d'un voyage d'environ 5 000 par personne. L'association va les soutenir à la hauteur de 1 500 ou 2 000, mais le reste, ça va sortir de leur poche. C'est une pression supplémentaire qu'on aimerait enlever. Pour ça, l'association a mis en place une campagne de sociofinancement avec comme objectif d'amasser 100 000 pour alléger la facture des participants. Ça ne serait pas trop pour permettre aux athlètes canadiens de performer dans un contexte favorable, insiste toujours Sacha Laoun. Pour l'instant, notre inscription couvre seulement une ronde de pratique. On va arriver là, on parle de Tokyo, on va arriver là avec un décalage horaire assez significatif, un changement de climat. Ça va être à nos frais si on veut disputer plus d'une ronde de pratique. Sacha Laoun se considère néanmoins privilégié d'avoir l'occasion d'aller tester les verres japonais. Plusieurs des meilleures golfeuses au monde sont asiatiques. Ça sera spécial de jouer là-bas. On a un deuxième objectif, selon Alain Turpin, avec cette campagne de sociofinancement, c'est de faire connaître le travail de nos athlètes et de notre association. Alain Turpin, qui est lui-même golfeur à 16 heures, il dit « On espère rejoindre le public et le privé pour attirer des commanditaires. Les athlètes vont représenter le Québec et le Canada à l'international. C'est gros. Comme être sourd, c'est un handicap invisible. On pense moins à nous. Et on est un peu les parents pauvres du sport. » Et ça, il trouve ça bien dommage. Alors, c'est un article, moi, qui m'a fait découvrir une réalité que je ne connaissais pas. Donc, ça s'appelle « Une golfeuse québécoise aux Sourlympiques ». C'est un article de Kevin Breton qu'on peut trouver sur le site de Radio-Canada Sport depuis hier.
Un article fort intéressant. Puis pour ceux qui commencent, moi j'ai vraiment découvert, hein, je ne sais pas pour toi Yvan, mais j'ai vraiment découvert les Paralympiques l'an dernier parce que les Français ont vraiment mis de l'avant ces jeux-là et ont vraiment fait un effort pour qu'on s'y intéresse. Et je trouve ça toujours de plus en plus intéressant et de découvrir aussi ces athlètes formidables. Alors, on a le temps peut-être pour une petite brève ou deux?
Oui, ben deux petites brèves. C'est deux personnes que à l'émission Au quotidien, 5e édition, on a rencontré et qui ont fait des choses assez exceptionnelles cet été. Je commence par Stéphane Hébert, qui Stéphane Hébert, il a donné un rein il y a 4 ans. Et il a pris le projet, il a envisagé le projet de partir de Vancouver pour s'en venir à Montréal à vélo. Complètement en autonomie, il n'est pas accompagné de personne, il a une petite voiturette en arrière de lui avec sa tente, puis de quoi se faire à manger, puis ces choses-là. Il est parti de Vancouver le 26 mai, je l'avais interviewé à ce moment-là. Il vient d'arriver à Aylmer hier soir. Donc, il y a sur la page Facebook Stéphane Vancouver Montréal, il y a un rendez-vous demain, 25 juillet, à 9h du matin, au parc Jacques-Cartier à Gatineau, près de la maison du vélo. C'est au 350 rue Laurier à Gatineau. J'imagine que arrivé au Québec comme ça, là, il va probablement être entouré d'autres cyclistes. Là. Ça va vraiment changer sa dynamique. Lui, qui ça fait presque 2 mois maintenant, qui roule tout seul à travers le Canada.
On va essayer de l'interviewer. Malheureusement, il nous reste juste une quarantaine de secondes. Est-ce qu'on peut, on a le temps de faire la petite brève en 40 ou sinon on laisse passer?
Oui. Alors, pour Stéphane Vancouver, Montréal, vous regardez, on peut donner des dons. C'est pour la maison des greffés, c'est pour les greffes. François Bernier, lui, il est sur sa chaise roulante. Il a fait un grand voyage poussé par quelqu'un en rollerblade à travers la France. Alors, allez voir ça, c'est sur François BERN, et lui aussi récolte de l'argent.
Ben, écoute, on va essayer peut-être, pendant que ton émission est en pause, on va peut-être essayer de leur parler, nous, ici, à l'émission
oui,
au quotidien. On se retrouve la semaine prochaine, Yvan. Merci beaucoup d'être là.
Bye.
Et nous, on s'en va peut-être dans un meurtre mystère, après la pause.